la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadoglou-Dadi.
Bonjour à tous.
Tom Lila.
Bonjour.
Pierre-Emmanuel Barré.
Bonjour. Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour Daniel.
Et notre invité, Monsieur Guy Bedos. Qu'est-ce qu'on est content.
Qu'est-ce qu'on est content.
Ça va, Guy?
Oui, très bien.
Merci d'être là. Et puis surtout,
merci de ton enthousiasme de, me recevoir.
On a lu, et j'ai adoré. Et puis ça fait du bien, quoi, la revue de presse, les revues de presse. Alors, il y en a certaines, d'ailleurs, il y a des allers-retours dans le passé. Et puis c'est extrêmement actuel à l'heure où noircit la campagne.
J'ai piqué un verre de Victor Hugo qu'on a transformé.
Voilà.
Pour la main dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne. Mais là, c'est un jeu de mots. La campagne électorale est...
Et la noirceur.
Elle noircit plutôt qu'elle ne rosie.
J'ai peur, Tom Villa, que vous n'ayez pas bien compris pourquoi nous avons invité Guy Bedos.
Moi aussi, je me suis demandé.
Voilà, merde. Le vieux, il en a marre. Déjà, j'accepte de venir sur France Inter, cette radio de bobo gaucho dépravé, dans une émission tenue par un présentateur de karaoké.
Dis donc.
Il est loin le temps de radioscopie, du masque et de la plume. J'écoute de temps en temps l'antenne, on dit que c'est une radio d'humoristes de gauche. De gauche peut-être, les humoristes j'en ai pas entendu beaucoup. Moi qui ai connu des proches... Coluche, Michel, si tu nous entends, tu dois faire des saltos arrière dans ta tombe. Il nous arrive pas à la cheville. Les Alex Vizorek, Charline Van Hunneker, Guillermo Guise, on s'est fait envahir par les Belges. Merde ! N'est pas un rayon BD de la FNAC. D'abord le cinéma, maintenant l'humour radiophonique. Le seul qu'on acceptait à l'époque, c'était le gros de Vos. Personne voulait faire de jeu de mots, lui oui, vas-y Raymond, nous fais pas chier. Merde ! Ils doivent tous, ces petits cons. Même à la retraite, j'ai continué à innover. Maintenant, il y a la jurisprudence Bedos, qui donne le droit à insulter Nadine Morano pour pas un rond. Cette conne. Salope. Mais surtout, quand on regarde le paysage politique actuel, j'ai envie de chialer. Cette présidentielle me fatigue. J'en viens presque à regretter le nabo et sa chanteuse à faune. Flamby va retourner au frigo. Entre Mélenchon, qui fait des hologrammes, il s'est cru où, lui ? Dans la guerre des étoiles, hein? Il a qu'à venir déguiser un Chewbacca, il a déjà les dents. Fillon, je lui jette pas la pierre, moi aussi j'ai fait bosser ma femme. Sauf que moi, on l'a vu, voilà. Macron, je l'aime bien, parce que j'étais en classe avec sa femme. En revanche... Marine Le Pen, je l'ai dit, si Marine passe, je pars au Québec. Voilà, c'est dit. Je prendrai un boulot de cantonnier à Montréal, j'irai déblayer la neige, j'en ai rien à foutre. Je me remarie avec Céline Dion, il paraît qu'elle aime les vieux, ça tombe bien, j'ai changé de prostate l'année dernière. Voilà. Un coup de Viagra et roule ma poule. Faudra juste faire attention pour ces gamins à pas confondre le Viagra et les tic-tac, sinon René Charles, il fera porte-manteau.
Oh.
Donc voilà, Nagui, je suis bien gentil, il a 16 ans, merde. Je suis bien gentil d'être venu, déjà je viens, je suis sûr qu'on va me parler de mon fils, ce petit con, qui soi-disant a tué le père, le vieux, il est encore là, voilà. Je suis pas Jean-Marie Le Pen. J'ai bon pied, bon oeil. Donc, le music hall, c'est fini, mais il me reste le stylo, et c'est pourquoi je sors ce livre que je qualifierais, en toute modestie, de brillant. À l'heure où noircit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Sauf pour Marine, évidemment. Bonne journée.
Oh, joli. Mais,
Tom Villa.
Bravo.
C'est la meilleure invitation de Guy Bedos que j'ai entendue, très honnêtement.
Aujourd'hui.
Non, c'est super bien.
C'est bien.
Non, elle est bien faite.
Il est jeune, mais il est bien.
J'aime bien le mais.
Merde.
Elle est bien faite et surtout il y a du fond et du boulot parce qu'il y a carrément la citation sur le mariage avec Céline Dion.
Et le départ au Québec.
Et le départ au Québec.
En cas de victoire de Marine Le Pen.
Et dans le livre, oui, absolument. Mais t'as bossé, mon con.
Non.
On part sur un mon con. D'accord.
Ils se sont débrouillés, mais ils ont réussi, je sais plus, dans le JDD, dans le journal du dimanche, à sortir ça. C'est ce passage sur le Québec.
Il manque juste la blague finale, c'est quand même de dire que ça sera pas son premier vieux pour elle, mais vous, ça sera votre première moche.
Voilà, oui.
Voilà. Je la fais en entier. Hein.
Ouais.
Oui. Ouais, mais
pas s'il arrive à être pécho à la fin de l'émission.
Sur le fond, je suis très gentil.
Mais oui.
Je suis très humain.
Et le fond, vous avez l'impression que pas mal de personnes l'ont touché, ce fond, quand on vous lit, parce que ces revues, ces revues de presse sont vraiment distillées au jour.
J'ai repris des revues de presse, mais tout ce qui est au présent,
est actuel.
Je viens de l'écrire,
oui,
bien sûr.
Mais et vous, en tout cas, vous venez de l'écrire. Non, elles sont publiées et telles que vous les avez écrites au moment où les choses se sont passées. C'est juste ça que je voulais préciser, parce que des fois, vous commentez des décisions ou des choses qui se sont passées. L'histoire va et l'actualité va extrêmement vite. Donc vous dites, vous parlez par exemple des primaires, que ce soit celles de droite ou de gauche. Ces primaires qui vous dépriment d'ailleurs,
oui.
Aucune des deux ne vous a plu.
Non, mais parce que moi je suis orphelin, ça fait un peu vieux con ça, c'est vrai, mais voilà, c'est comme ça. Mais je suis orphelin des face-à-face Mitterrand-Giscard, par exemple, sans primaire. Quand je vois tous ces types qui prétendent devenir président de la République alignés derrière des pupitres, et que, je veux pas vous offenser, que certains journalistes interrogent comme s'ils étaient des flics, franchement, je trouve ça...
Oui, puis il n'y a pas vraiment de débat en plus. C'est chacun prend sa parole,
oui,
et puis
il n'y a
pas de confrontation.
C'est sinistre, moi, personnellement, cette histoire de primaire.
Ça vous a pas plu?
Ah oui,
y compris le débat avec les candidats à la présidentielle?
Ah oui,
non plus.
Non, moi je serais pour supprimer ce machin. C'est
bon, enfin c'est un peu tard, ça a eu lieu maintenant, et puis certains
on m'écoute pas.
On vous écoute tellement peu que c'est pas Montebourg qui est passé, puisque vous étiez visiblement le copain de Montebourg. Oui, j'aurais bien aimé que ce soit lui.
On parle. Pardon, Nagui.
Je vous en prie.
Je vous ai coupé, mon cher.
Non,
c'est
ça,
pas
ça. Ça a été fait il y a longtemps, mais allez-y. Non, je vous en prie.
Je suis un peu choqué que, d'une certaine manière, on ne parle jamais de la... Il faut bien dire, du goût un peu contestable des électeurs aussi. Parce qu'on critique beaucoup les politiques, mais moi je critique aussi les électeurs. C'est quand on, par exemple, allez, éloignons-nous, quand on voit que les Américains ont voté pour Trump, qui est un cauchemar, pour moi en tout cas, je pense que c'est un danger pour le monde entier, et puis il est totalement incompétent.
Enfin, n'oublions pas que c'est un cauchemar pour les Américains eux-mêmes, et que...
Mais ça peut nous concerner,
mon cher. 50% des Américains sont très contents de Trump.
Non, justement, moins de 50.
Ils sont très divisés.
Ouais. Moins de 50. Et puis surtout, il faut pas oublier que le système électoral aux États-Unis fait que la masse d'électeurs étaient contre Trump, mais les grands électeurs étaient pour. C'est juste
la
nuance. On va pas rentrer dans ces détails-là, mais les Américains ne sont pas tous pro-Trump. Il faut pas l'oublier.
Non, ils sont pas tous, mais ils sont divisés.
Mais il est là.
Il est là. Il est nommé.
Il est à la Maison Blanche.
Il n'arrive pas trop à gouverner, mais toutes ces décisions qu'il prend ne fonctionnent pas. Mais il est là. De ce que vous voyez de l'actualité, parce que le danger de la revue de presse, moi j'ai adoré, Leïla, j'imagine que tu as été dans le même état que moi.
Ouais,
voilà, c'est génial, c'est brillant, on entend votre voix.
C'est parfois méchant.
À souhait, évidemment.
C'est pour ça que c'est drôle.
Évidemment.
J'ai eu raison de me lever plus tôt.
Et c'est tellement bien senti. Et même quand on n'est pas d'accord avec vous, parce que je ne suis pas d'accord sur tout ce que vous dites, mais. Non, pas toujours. Non, mais écoutez.
Oh, quel chagrin.
Mais non, c'est pas quel chagrin. Je suis pas d'accord, mais en même temps, c'est toujours frappé d'intelligence, c'est toujours malin, c'est toujours bien vu, et surtout, c'est dans le vif du sujet. C'est dans l'instant présent que vous écrivez et que vous ne les corrigez pas. C'est-à-dire, vous les avez publiés en voyant.
Oui, j'essaie de faire du drôle avec du triste.
C'est ça.
C'est mon destin.
Ça a toujours été votre idée.
Je fais le malin, mais je me retrouve assez dans cette, je crois que je le cite, dans cette définition de Kierkegaard qui dit « l'humour est la politesse du désespoir ».
Vous n'avez finalement que de gentillesse, par exemple pour François Hollande, qu'au moment où il a gracié Jacqueline Sauvage. C'est le seul geste que...
Oui, je lui ai écrit
et la lettre que vous avez écrite, ouais.
À la demande de ma
Eva Darlan.
Copine Eva Darlan, qui a fait du bon boulot. En effet, moi je suis pas pour que les femmes tuent les hommes. Je l'ai pas montré à ma femme cette lettre que j'ai envoyée au président, parce que on sait jamais. Hein.
Non mais quoi. Sauf que vous la frappez pas, vous la martyrisez pas comme lui l'avait fait.
Non.
Voilà.
Pas encore, non.
Ah oui, d'accord, c'est nos limites, quoi. Les vannes vont dans tous les sens. Non, moi, je voulais simplement dire, ce qui me manque, c'est que c'est tellement temporel que, d'abord, ça finit trop vite. J'aurais aimé que ça dure encore un tout petit peu. Et surtout, il me manque tellement de trucs.
Mais oui, il s'est passé des choses depuis.
Y compris Valls.
En fait, on l'a publié trop tôt.
C'est ça, y compris Valls qui rallie Macron ce matin. Je me dis, mais il en pense quoi, Guy Bedos?
Et Macron qui répond que...
Que ça veut rien dire.
Merci, mais en tout cas, il ne gouvernera pas avec lui.
Clairement. Ça vous fait rire.
Oui. Oui. Je suis bien reçu. Hein. Bravo, merci.
Il y a un moment où il va falloir quand même que vous votiez. Et si vos candidats sont pas sur les
bulletins. Attends, je ressemble à des millions de Français. J'ai pas encore pris ma vraie décision.
Vous avez une formule où des millions de Français vont se reconnaître quand vous dites je ne vote plus en fonction de mes goûts, mais en fonction de mes dégoûts.
Oui, c'est vrai.
Elle est...
Ben oui, je suis beaucoup plus sûr de mes aversions que de mes enthousiasmes. J'ai pas voté pour Hollande, j'ai voté contre Sarkozy, moi.
Et ça a commencé avec le vote de Chirac contre Le Pen en 2002.
Absolument. Oui.
Et avant, c'était le cas aussi? Les élections présidentielles précédentes. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau.
Vous avez voté plus contre que pour.
Vous avez voté contre Giscard et pas pour Mitterrand en 80.
Au départ, j'ai voté violemment contre Giscard. Parce que Giscard, j'ai beaucoup souffert sous Giscard. J'ai été blacklisté.
Vous dites même que c'est celui qui a été que Sarkozy a été plus tendre avec vous que Giscard.
Ah oui, Sarkozy.
Il a essayé de vous amadouer.
Il était au bord de la partouze.
Et vous avez reçu Place Beauvau, je crois, non? Vous le racontiez
sur
scène.
Oui, parce que je suis délégué de la Ligue des droits de l'homme. Et il m'avait reçu comme tel. Mais j'étais aussi quelqu'un qui habitait à l'époque. Je regrette pas, j'ai changé de quartier, mais il m'est arrivé d'habiter Neuilly et j'adorais pas. Non.
Comme vous suivez l'actualité, que vous la dévorez, que vous la croquez et que vous avez dit, hein, comme le rappelle Tom Villa, fini, plus sur scène, je n'y vais plus. On sent que ça vous démange, hein, que ça vous gratouille un tout petit peu.
Mais parce que j'ai beau être un vieillard, je suis en pleine forme et je pourrais. J'ai fait mes adieux trop tôt, je regrette.
C'est vrai, 2013, vous regrettez, ouais.
Pourquoi ne pas écrire? Ah non, il regrette. Non,
pourquoi ne pas écrire? Pourquoi ne pas écrire
au quotidien, dans un journal? Dans un journal au quotidien.
Ah oui,
Pourquoi ne pas venir ici tous les jours ou une fois par semaine faire une revue de presse?
Tu m'engages?
Ouais.
Il faut que je réfléchisse. Est-ce que il faut se lever tôt?
Non, l'émission est à 11h, ça va.
Guy se lève à 9h, il arrive vers 10h30.
Et je me réveille vers midi et demi, 1h15.
Ça pourrait m'amuser.
Bah oui.
Bon, bah très bien. C'est fait.
C'est très mal payé.
Pas ça pour l'argent. Leïla, est-ce que t'as ressenti la même chose que moi? Une frustration que ça soit trop court?
Oui, et en même temps quelque chose d'assez jubilatoire parce que c'est une thématique abordée de façon assez rapide et bien ciselée. C'est le style Bedos. De toute façon, on vous retrouve totalement et c'est le bonheur. Il y a la politique. En effet, il y a des moments où vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez plus quoi en penser, comme si le désespoir vous tombait sur les épaules. Et puis, il y a des moments enchantés aussi quand vous parlez de l'Algérie. Quand vous parlez de vos amis algériens et algériennes qui vous accueillent à l'Institut français pour une projection d'un film qui n'a...
Je suis pas du tout pied noir nostalgique de l'Algérie française.
Bien sûr.
C'est l'Algérie que j'aime.
C'est l'Algérie.
Et... D'ailleurs, j'ai deux projets de films en Algérie. Un avec Fellag, où je joue, ça m'arrive souvent, je suis pas juif, mais je joue souvent des juifs. Et je vais jouer aussi un maghrébin. Dans un autre film, je vais jouer un personnage de... Un arabe, je vais jouer
moi
un arabe.
Mais ça va, c'est pas la peine de m'en regarder comme ça.
Et il y a un très beau spectacle en ce moment au rond-point de Fellag, c'est Blade Runner, où il revisite un peu l'histoire mouvementée entre l'Algérie et la France. Il faut vraiment aller le voir si vous avez l'occasion. En tout cas, moi j'ai trouvé ces pages-là sur l'Algérie très tendres, qui viennent contrebalancer parfois votre côté féroce.
Mais vous n'êtes pas un peu de parti pris, vous?
Est-ce que je suis pas objective? Non, pas forcément, un petit peu quand même, mais c'est surtout à travers vos mots, moi, que je découvre un pays que je ne connais pas.
Oui, j'ai compris que vous n'étiez pas ma pire ennemie.
Non, c'est ça, c'est pas non. Moi la pire ennemie de l'État.
Vous avez le téléphone?
J'ai un 06 et j'ai un 01.
Et vous avez une femme.
Ah, et voilà. J'ai le tour d'en parler publiquement.
Mais il y a quelque chose de très tendre. Il y a quelque chose de très tendre quand vous évoquez l'Algérie, comme s'il y avait un retour à l'enfance. Et j'ai l'impression de lire un petit garçon dans ces pages.
C'est vrai, mais c'est exactement ce qui se passe, parce que oui, j'ai pas fait la guerre, je voulais pas tirer sur mes copains d'enfance, etc., etc. Je suis pas le pied noir, nostalgique. Encore une fois, de l'Algérie française que je
absolument. Vous parlez de l'OAS d'ailleurs.
Très moyennement. Ouais, mais et en plus, j'ai échappé à des parents racistes. Je me suis construit contre ce que j'ai vu, entendu et subi.
Mais vous avez connu les Jean-Marie Le Pen au AS
Je lutte contre ça depuis des années.
Non, mais c'est bon de le rappeler, parce que cet OAS, c'est sur ces. Ben c'est la base du FN.
L'OAS a enfanté le Front National. Mm-hmm. Le Pen faisait partie de gens qui ont torturé, tué des tas de gens en Algérie. Oui.
Il ne faut pas l'oublier. Oui.
Ouais, Massu, oui, Bijard, vous les citez.
Un procès qui s'amène là.
Non, mais il ne faut pas l'oublier.
Bon, c'est un procès que vous avez déjà eu, puisque vous racontez aussi vos rendez-vous réguliers avec le Front National.
À la 11e chambre, c'est ça? Non, c'est quoi
la
l'adresse?
La 17e chambre.
17e chambre. Au tribunal. Vous avez vos habitudes, finalement, au tribunal?
Oui, oh bah oui, on me reçoit bien.
et même dans ces circonstances, le Figaro vous soutient. C'est
oui,
complètement
c'est
dingue, ça.
C'est vrai.
Vous racontez que l'avocat du Figaro, un avocat du Figaro, a été dépêché pour assister à l'audience.
Oui,
et il a témoigné.
Marine Le Pen,
voilà. Oui, il a témoigné en votre faveur, Guy Bedos.
Il y a des gens très bien au Figaro.
Oui,
mais
oui.
Pas que.
Non, mais ça semblait vous étonner, vous aussi, quelque part, avec le combat que vous menez depuis de nombreuses années, que le Figaro, qui appartient pas clairement à votre tendance politique originelle,
certes, mais
vous soutienne.
Mais j'ai des copains qui travaillent au Figaro aussi. Mmh. C'est-à-dire, il faut bien vivre. Et donc, ils sont au Figaro, mais. Cela dit, je fais de grosses réserves, et puis j'arrêterai là, sur certains autres journaux qui se prétendent de gauche et qui m'agacent terriblement.
Justement, elle va comment la gauche, pour vous?
On parle de la presse, là.
Non, de la gauche.
La gauche? Elle va comme elle peut aller, la malheureuse. Je veux dire qu'il y a des gens qui sont de gauche et qui ont des raisons d'être de gauche, parce qu'ils luttent pour la justice sociale, et c'est la gauche qui est censée être porteuse de ça. Mais quand on entend Marine Le Pen parler, c'est Arlette Laguiller. Elle dit le peuple. Et comme beaucoup de gens sont un peu naïfs, et je suis poli, ils la croient.
Oui, leur discours est de dire on a essayé la droite, ça n'a pas marché, on a essayé la gauche, ça n'a pas marché, pourquoi ne pas essayer Le Pen?
Puis il y a aussi les gens qui sont très anciennement adoubés au FN. Il y a plein de fachos dans ce pays.
Mais vous ne m'avez pas dit ce que vous pensiez de la gauche. La gauche, est-ce qu'elle se retrouve à vos yeux chez Mélenchon? Est-ce qu'elle se retrouve chez Hamon? Est-ce qu'elle se retrouve chez Macron? Elle est où, la gauche?
Et Philippe Poutou, on n'en parle jamais de Philippe Poutou.
C'est vrai, c'est important.
Oui. Je ne suis pas hanté par Philippe Poutou. Je ne sais pas qui c'est.
Quand même,
c'est pas la première fois
qu'il se présente à la présidentielle. C'est pas la première fois que Philippe Poutou est candidat. C'est un des candidats qui compte à gauche.
Oui, mais vous avez remarqué qu'on ne parle que de certains candidats.
Mais c'est ça. C'est pour ça que c'est bien de réhabiliter les autres, de les citer.
Revenir. Mais oui, moi j'aime bien Mélenchon. J'ai même soutenu Mélenchon dans une élection législative. Mais il est il a un caractère très bizarre. Très bizarre. Moi, je me souviens que j'avais préparé une petite revue de presse à ma manière, où je le taquinais, comme je taquinais Mitterrand, Rocard et les autres, mais avec qui j'allais boire des verres après.
Ouais.
J'ai même fait.
Ce que vous dites sur Rocard est formidable.
J'ai même été vedette américaine dans des meetings en plein air, dans certains meetings de Mitterrand, et je le désinguais dans son propre meeting, et devant ses propres clients.
Ça s'appelle l'autodérision, oui.
Voilà.
Et Mélenchon, vous trouvez que Mélenchon
avait une chance de ça. Il avait beaucoup d'humour. Et Michel Rocard, dont j'étais très proche, là, pour lui, c'est autre chose, j'ai du chagrin qu'il soit parti.
Vous en parlez beaucoup, d'ailleurs, vous lui dédiez le livre.
Ouais, vous n'avez pas fini sur Mélenchon.
Ah oui, Mélenchon, oui.
Alors, Mélenchon, je l'ai vu récemment encore, j'étais à... je participe à... moi, je suis dans aucun parti, je ne suis pas socialiste, mais je milite dans des associations. Et je défends les migrants avec Emmaüs International et comment ça s'appelle, Utopia. Maintenant, je suis membre d'honneur de l'association Utopia. C'est dommage que tous les Français ne ressemblent pas aux militants de ces associations, qui sont formidables. Je parle des Français. Voilà, je sais même plus ce que je disais.
On parlait de Mélenchon. J'attendais de savoir. Vous avez fait une revue de presse pour Mélenchon.
Quelques petites blagues.
Et ça l'a fâché. Ça l'a fâché.
Mélenchon, encore une fois. Je racontais que j'étais donc au Cirque d'Hiver là récemment à une réunion du droit de mourir dans la dignité, mm-hmm, auquel j'appartiens, et on est venu me chercher pour que j'aille à la République voir Mélenchon, voir et entendre Mélenchon. Il m'a d'ailleurs salué très gentiment et je l'ai écouté très gentiment aussi. il est assez étonnant. C'est un acteur, c'est un professionnel.
C'est vraiment un acteur pour vous.
Oui.
Il joue un jeu.
Oui. Oui. Je suis pas sûr que je serais. Non, mais j'ai pas envie de dire les choses. Je veux pas dire pour qui je vote, d'ailleurs.
Non, mais je vous demande pas. Je vous demande pas pour qui vous votez. Non, mais c'est vous qui avez commencé en disant j'ai fait une revue de presse pour Mélenchon.
Avec quelques petites blagues.
Et on a cru comprendre que ça s'était mal passé. Mais si ça s'est bien passé, tant mieux.
Laisse tomber, on l'aura pas.
Non, ça s'est pas très bien passé parce qu'il est très susceptible et que c'est un défaut quand on s'engage dans ce genre de métier.
De ne pas avoir de recul sur soi.
Oui. Ah oui, il est fou de lui.
Alors évoquons un homme dont vous étiez aussi fou d'une certaine façon, c'est Michel Rocard. Évoquons Michel Rocard, à qui vous dédiez ce livre. Vous racontez dans le bouquin les soirées que vous pouviez passer ensemble avec vos compagnes respectives, les dîners, la tendresse et la peine que vous avez eue lors de sa disparition, en précisant que ses cendres...
J'ai pleuré comme un gosse quand on m'a appris. C'est ma fille qui m'a téléphoné pour m'apprendre la mort de Rocard.
Non, mais il y a surtout un moment très joli, pardon, dont tu veux parler, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver un jour en Corse.
En Corse, puisque ses cendres ont été enfouies dans un petit village.
Quand je parle de mes morts, je dis toujours à bientôt, et là, pour Rocard, je dis à tout de suite, parce que je pense beaucoup à la mort. D'une certaine manière, la mort nous soulage de la vie. C'est pas que je me plains de ma vie, mais je trouve que la vie est difficile parfois, et je ne déteste pas l'idée de mourir.
Vous n'avez pas peur de cette idée, en tout cas?
Non.
D'accord.
Et même quand on parle de du suicide assisté, moi j'ai pas envie qu'on assiste à mon suicide. Je le ferai tout seul.
Waouh.
Voilà. Vous êtes content de...
Moi, on parlait de Lumio. Moi, je m'attendais à ce qu'on parle de Lumio.
Et puis, Michel Rocard, vous dites quelque chose de très intéressant. C'est que généralement, il y a beaucoup d'hommes politiques qui vont se revendiquer, être dans le sillage d'eux. Et pour Michel Rocard, lors de sa disparition, beaucoup d'hommes politiques se sont un peu emparés de sa personnalité, de sa figure et de son itinéraire politique. Et vous précisez que ni Valls, ni Macron, qui se revendiquent d'une certaine façon de Rocard, n'auraient eu la validation de Rocard lui-même. Alors ma question, c'est de savoir
qui... Le papa
qui...
ne les avait pas reconnus.
Voilà, et alors il aurait reconnu qui?
C'est la phrase que vous employez.
Il aurait reconnu qui, d'après vous, Michel Rocard? Il aurait pu reconnaître qui aujourd'hui?
Ben oui, mais...
Vous savez qui?
À part moi, je vois pas.
Vous allez vous présenter, en fait,
c'est ça? Je vais me présenter.
Voilà.
Ben, Coluche l'avait bien fait. Il a failli faire perdre Mitterrand, Coluche.
C'est vrai,
Il avait fait des voix.
Ce qui a laissé, d'ailleurs, toutes les rumeurs courir sur l'accident ou le pseudo-accident à moto, on ne sait pas si...
Oui.
Bah, oui, en tout cas, c'était des rumeurs de... Et puis, certains de ses copains... soupçonné d'un truc bizarre.
Michel, son accident de moto, il fumait pas que des gitanes.
Mais il avait reçu aussi des menaces de mort et,
oui, c'est vrai.
Et par courrier, il avait reçu des cartouches en disant les prochaines seront dans ta peau. Enfin, non, c'est violent quand même ce qu'ils dégageaient autour de Coluche.
Il y a des tas de connards.
Ouais, paye. Trop. Guy Bedos signe chez Fayard, donc cet ouvrage, ce recueil avec toutes ces revues de presse. On suit l'histoire. Il y a quelques petits bons en arrière qui sont nécessaires parce que l'actualité réclame ces bons en arrière, ces références faites à de précédentes revues de presse. Et encore une fois,
j'aimais retrouver certains. Certains propos sur Sarkozy.
Vous les recontextualiser.
Non, je suis pas le meilleur ami.
Non. Et cela finit. La dernière nouvelle est une triste nouvelle, celle sur l'affaire Théo. Ce jeune qui a été violé par la matraque d'un policier. C'est votre dernière revue de presse là-dessus. Leïla, vos oreilles ont sifflé quand on vous a dit que Guy Bedos était notre invité aujourd'hui.
Oui, et quand je pense à vous, Guy Bedos, je pense à beaucoup de choses. Et je pense notamment à l'un de vos copains avec qui vous vendiez des bouquins en faisant du porte-à-porte.
Oui. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs.
Georges Moustaki. Georges Moustaki, Guy Bedos, avec qui vous partagiez. Vous avez partagé pas mal de moments, plus jeune.
Avec qui?
Moustaki.
Georges Moustaki.
Moustaki, bien sûr, oui. Il habitait. D'abord, on a vendu des livres de porte à porte. Ça s'appelait. L'association s'appelait Les Jeunes Auteurs Réunis. J'étais pas auteur du tout à l'époque. J'avais 17 ans. Mais je vendais, pour payer mes premiers cours de théâtre, je vendais des livres de porte à porte. Et j'allais souvent d'ailleurs dans l'île que j'habite, pour présenter chaque nouveau livre à Michel Morgan. Voilà. T'as de beaux yeux, tu sais, embrasse-moi.
Dans l'île de la Cité ?
Dans l'île Saint-Louis.
L'île Saint-Louis, pardon. L'île Saint-Louis. Oui. Là où habitait Moustaki.
Oui, absolument. Et Briali. Je les ai enterrés tous les deux. J'en ai marre. C'est pour ça que je pense souvent à la mort, parce que j'aimerais bien qu'on s'occupe de moi un peu et qu'on m'accompagne.
Mais ça va, mais vous êtes encore vert. Pourquoi vous pensez à ça ?
Oui, mais...
Ah merde.
Mais de toute façon ma tombe est déjà choisie. Elle est en Corse.
À Lumio,
qui est mon Algérie de rechange.
L'Algérie de rechange.
Je n'ai pas sur la Corse le même regard que monsieur Manuel Valls. Il est mort, lui, au fait.
Ça fait longtemps. Politiquement.
Ah oui. Oui, il est ridicule.
Ça fait longtemps aussi.
On poursuit. Quand je pense à vous, Guy Bedos, je pense à un épisode que vous racontez dans un de vos livres. C'était le 20 avril 1979. Vous êtes chez vous, vous regardez le journal télévisé et dans ce journal, le présentateur annonce que c'est l'anniversaire de naissance d'Adolf Hitler. À vos côtés, votre compagne, enceinte, et vous lui dites... Retiens-toi. Et c'est Nicolas, le petit garçon dont il est question.
Oui, mais ben Hitler, je l'ai.
J'ai vendu des livres à question.
Qu'est-ce qu'il a fait ?
J'ai vendu des livres à Hitler. J'ai vendu Mein Kampf en porte-à-porte. Non.
Quelle
horreur.
J'avais des parents racistes. Mon beau-père était carrément facho. Y regarder des émissions, j'étais gosse, mais la télévision existait déjà, et sur Hitler avec beaucoup d'affection, et j'ai vu, entendu, et puis surtout tout ce qui se passait par rapport au Maghreb, c'est ce qui m'a rendu antiraciste, fou furieux, militant.
Mais ce qui vous a choqué, la phrase que vous avez dite à votre épouse enceinte de Nicolas, c'était qu'on évoque l'anniversaire d'Hitler à la télévision.
Oui, 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 parce que...
Et que son fils naisse le même jour.
Oui. Non, mais il n'est pas facho, mon fils.
Mais non, bah non.
Non, non, non. Non, c'est la réaction devant le journal télé que l'on voulait
oui,
comprendre.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Qu'est-ce que vous voulez me faire dire?
Non, rien. C'était juste pour l'anecdote, parce que je trouvais que ça veut dire quelque chose de vous, ça vous représente bien. C'est se dire, voilà, oui, vrai, votre fils est sur le point de voir le jour, et vous voyez ça à la télé, vous dites, ah non, pas aujourd'hui. Je supplie, retiens-toi. Et je trouve que même cet humour dans ces circonstances-là, ça veut dire beaucoup de vous, de qui vous êtes, Guy Bedos.
Vous êtes très affectueuse, vous.
06 24 24.
Vous êtes à l'antenne, on entend ce que vous dites, attention. Puisque vous parlez de la mort de Lumio et de la Corse où vous voulez reposer pour l'éternité, avez-vous déjà pensé à votre épitaphe?
Non, tiens, c'est une bonne question. J'en parlerai dans mon prochain livre.
Très bien.
Voilà, une bonne nouvelle.
Voilà, une bonne nouvelle.
J'appellerai peut-être épitaphe. J'en parlerai pendant tout le livre.
Tout est épitaphe possible. En tout cas, le nouveau s'appelle « À l'heure où noircit la campagne », publié chez Fayard. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré.
Aïe, 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 aïe. Salut la Guy, salut tout le monde. Attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est un philosophe existentialiste qui retourne toujours sur ses pattes?
Jean-Paul Chartres,
bravo. C'est la première fois, bien joué. 1-0 pour l'amour. T'es fort, dis donc. Et je suis en pleine forme. Dans 4 minutes, je suis en congé pour 2 semaines. J'ai rempli mon sac avec du lubrifiant, du popper, c'est des capotes. J'arrive, maman. C'est l'heure de ma chronique vacances. Jingle. Les vacances, c'est très très bien. On bouffe tout le temps et on baise plein de meufs au lieu de travailler. En fait, les vacances, c'est comme un mandat de François Hollande. Sauf que les vacances, c'est triste quand ça s'arrête. Alors, je vous cache pas qu'au niveau suivi de l'actu politique, j'ai un peu peur de partir 2 semaines. Déjà, quand j'écoute pas les infos pendant 1 heure, je rate 12 mises en examen, 5 déclarations de patrimoine douteuses et j'apprends que la fonte des glaces a séparé la Guyane du continent américain. Pour être au taquet sur l'actu, je ne lâche plus mon téléphone, je pisse avec une main, je mange avec une main, je conduis avec une main, je suis à ça de niquer Mélissa Torio. Hein. Non, ça change tout le temps. Ce matin, je me réveille, valse votre Macron, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Merde! Macron, il a été rejoint par Bayrou, Valls, Le Drian. Et pour la 6ème République, c'est mal barré, mais pour le 8ème jour, on est bon, hein? Non, sérieux, c'est l'enfer, j'arrive plus à suivre. Je quitte le bureau avec une chronique sur la veste de Fillon à 5000, et quand j'arrive dans le studio, tout le monde parle de sa montre à 13000. Le mec, en 100 mètres, il a gagné 8000 euros, putain! À part Usain Bolt, personne peut faire mieux! C'est pas une campagne, c'est un pain surprise et pas de bol pour les invités, tous les sandwichs sont à la merde. Hein. Entre Fillon, Le Pen, Le Roux, il y a une nouvelle affaire toutes les 15 secondes, le seul truc que j'ai encore le temps de faire jusqu'au bout, c'est baiser. Il y a eu 10 burn-out et 3 suicides de stagiaires à l'AFP en un mois, il n'arrive plus à suivre le rythme. Il est con, Pierre Ménès, il suffisait qu'il lâche le foot pour le service politique, il les perdait en 2 jours, ses 45 kilos. Non, c'est incroyable la vitesse avec laquelle on se fait mettre. Tu veux porter plainte contre Fillon parce qu'il est en train de t'enculer, tu te retournes, c'est Le Pen qui a pris sa place avec un gars de ceinture. Tu te retournes pour crier au secours, bam! Tu te retrouves avec la bite à Macron dans l'oreille. Pardon, je croyais que c'était l'anus, je suis pas très fort en géographie. Non, sérieusement, on se fait tellement violer pour analyser la campagne, c'est pas des experts politiques qu'il faut appeler, c'est les experts Miami. Nom de Dieu, on a retrouvé 10 ADN différents dans le cul de cet électeur. Mais pourtant, ils sont 11 candidats. Oui, mais Mélenchon s'aimait tellement qu'il a préféré s'auto-enculer. Et le 23 avril, les candidats vont encore s'étonner parce que la moitié des électeurs se seront pas déplacés pour eux, mais c'est normal, putain! Vous imaginez Natacha Campouche qui arrive à s'échapper, qui aperçoit enfin le soleil, l'herbe verte, les oiseaux, la liberté, et qui dit « Oh puis non, je vais plutôt retourner me faire baiser pendant 5 ans par un vieux blanc complètement déconnecté de la réalité. Hein » Et comme d'hab, les politiques, au lieu de se dire « Tiens, les gens ne vont plus voter, et si on se remettait en question, malin ?» Hein, ils diront, tiens, les gens ne vont plus voter, et si on rendait le vote obligatoire? C'est complètement con, hein. Si ma meuf ne veut plus me sucer depuis 3 semaines, je l'attrape pas par les cheveux pour la forcer. Hein, je me dis, tiens, c'est peut-être parce que ça fait 3 semaines que je me suis pas lavé la bite. Hein. Non, je vous le dis, j'ai besoin de vacances, hein. Je deviens agressif, dès que je vois une affiche électorale, je crache dessus. Hier, je m'énervais sur une affiche au hasard depuis 5 minutes à mettre des coups, là, comme ça, là. Et là, il y a une petite voix qui me dit, Excusez-moi, mais je suis le vrai Philippe Poutou. J'ai pas assez d'argent pour faire des affiches. Alors je reste debout à des endroits stratégiques avec un t-shirt voté Poutou. Mais j'étais désolé, moi. Je lui dis, oh pardon, monsieur Poutou, en plus je vous aime bien. Moi, le seul truc que je vous reproche, c'est de vous présenter à une élection présidentielle. Là, il m'a dit, c'est pas grave, j'ai rien dit au début parce que c'est la première fois qu'on s'intéresse à moi aussi longtemps. Vous allez voter pour moi, hein. C'est important d'aller voter. La réflexe, bim. Je lui ai mis un chassé, je lui ai dessiné une moustache et une dent noire avec mon marqueur indélébile et je suis rentré chez moi. Merci de m'avoir écouté.
Merci,
France Inter, Nadine, la bande originale.
La bande originale, quelques dates, très peu, mais pour le plaisir d'écouter aussi de la musique dans cette bande originale. La bande originale de la vie de Guy Bedos, c'était en 64 par exemple, premier gros rôle au cinéma, et là vous écoutiez Georges Brassens.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Déjà, quand vous entendez Brassens chanter les copains d'abord, vous pensez...
J'ai envie de pleurer. Ça me touche beaucoup. Parce que Brassens était un homme exquis dans la vie, tendre. J'étais très jeune, donc j'ai toujours été surpris par la gentillesse des gens quand ils le sont. Et donc voilà, j'ai eu la chance de passer à Bobino assez vite en covedette avec Barbara, et mes compagnons de l'époque, mes parrains de l'époque, c'était Barbara, Brassens et Brel. Pas mal.
Que début. Barbara, Brassens, Brel pour Bedos, c'est un club que vous avez fait. Et quels sont vos copains d'aujourd'hui?
Mes copains d'aujourd'hui, c'est ceux qui ont survécu. c'est Belmondo, ouais. Marielle, voilà, beaucoup, cela. Dabadi,
Belmondo,
mon copain Dabadi, Marielle, qui écrit pour moi parfois. Il écrit pas tout, comme l'a dit une conne de Télérama, mais j'écris beaucoup de choses.
Attention au pléonasme. Vous avez été à la Rue Blanche, à l'école de la Rue Blanche, où c'est là où vous avez rencontré Belmondo et Marielle.
Oui,
c'est des amis.
Marielle était élève de la Rue Blanche, moi aussi, mais Belmondo n'était pas. Il était chez Girard, lui. Et puis après, il est entré au conservatoire. Mais... bref, j'ai
en tout cas, c'est une
dans
amitié,
le hall de la Rue Blanche.
C'est une amitié d'une cinquantaine d'années, quoi.
Oui. Attends, il faut
Ouais, années 60, 2010, ouais, on est à 50,
on a autour
53,
de
54 ans, ouais.
18
d'amitié.
Ans, et ces temps-ci, c'est autour de 80. Voilà.
Barbara, justement, vous l'écoutiez en 74.
Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Vous étiez en première partie de Barbara à Bobino, ça c'est pour votre vie professionnelle. Parallèlement à ça, dans votre vie privée, cette même année en 65, vous avez épousé Sophie Daumier, dont vous vous séparez en 74 parce qu'elle était trop... malade, vous avez dit, a été invivable. Je ne désaime pas, vous avez dit.
Oui, je l'adore. J'adore ma femme actuelle, mais je n'oublie pas Sophie. Elle a eu une part très importante dans ma vie. On va me parler de mes morts parce que Barbara aussi est partie. Je croyais qu'on allait se marrer, tout ça, mais.
Bah, volontiers.
Moi, je suis au bord des larmes, là.
Non, mais volontiers, en volontiers.
C'est sensible.
On va passer au théâtre où vous jouez une pièce de votre fils Nicolas. À ce moment-là, vous écoutiez.
Bah, il va bien, lui.
Voilà. et on l'embrasse. Et à ce moment-là, on a aussi votre fille qui chante.
J'aime faire l'amour. Sans détour, je perds l'amour. Mon corps vit, mon âme se lasse. Alors, les mâles passés dans mon lit, ils
s'entasse. J'aimerais n'en avoir qu'un qui me fasse vibrer avec ses mains. J'aimerais n'en avoir qu'un, mais c'est mon destin.
Sous le nom de Vicky Banjo, j'aime faire l'amour, mais on voulait parler de cette année en écoutant Vicky Banjo et en parlant de la pièce de Nicolas Bedos.
Tu as dit, cette chanson m'avait moyennement plu. D'entendre sa fille gueuler comme une folle à la radio, j'aime faire l'amour, pour un père un tout petit peu possessif, c'est pas...
Et son film ?
Elle l'avait retranscrit dans le film d'ailleurs. Ouais.
Oui.
François Berland, qui jouait vaguement votre rôle.
Vicky Banjo. Ouais. Oui. Non, ça s'appelait Vicky.
Vicky, oui.
Très exactement. Oui. Son frère a pris très mal le personnage qui est censé le représenter et qui est joué par
Jonathan
Cohen.
Ouais, qui était une caricature.
Oui.
Il a mal pris.
Parce que quand il s'agit de lui, il manque un peu d'humour. Et donc, j'étais obligé, moi toujours très nuancé, de lui dire, ils ont été fâchés pendant un an. Et récemment, là, à Noël, je lui ai dit, si tu veux être invité à mon enterrement, je te conseille de te réconcilier avec ta sœur avant. Et on a passé Noël tous ensemble. Et
c'est mignon.
C'était mon cadeau.
C'est mignon, c'est parfait. C'est tellement important pour un papa que ses enfants continuent de se parler, de se fréquenter, de communiquer entre eux. D'ailleurs, vous dédiez ce livre, évidemment, j'ai envie de dire, à votre fille et à votre fils.
Oui.
Avec tout, avec une affection, et vous prenez bien soin de préciser à quel point vous aimez autant l'un que l'autre. L'amour se divise pas, se multiplie. Vous voulez
Je parle d'eux dans ce livre aussi.
Non, vous signez dans les remerciements, dans les dédicaces.
Ah oui.
C'est peut-être eux qui ont rajouté au dernier moment. Hein. Discrètement.
Attends, je suis pas au courant de ça.
Si, attendez, je l'ai rêvé.
Non, parce que j'ai un livre à la maison qui attend que Nicolas veuille bien venir à la maison pour le prendre.
Autant pour nous, il y a marqué qu'ils aillent se faire enculer.
Non, je vais les choisir.
Je ne le retrouve pas non plus, mais j'ai la sensation aussi.
Mais oui, c'est ça.
Il y a Michel Rocard, mais il y a aussi...
C'est ça.
C'est évoqué.
Ah, oui, ouais. Rocard, mais il n'y a pas les autres personnages...
Je vais retrouver.
Ouais, moi aussi, je
suis pratiquement sûr que vous l'avez...
Je suis très étonné.
Que vous évoquez votre...
Nagui.
Non, mais vous aimez autant l'un que l'autre. Je voulais juste venir vers quelque chose de positif, vers la vie et vers l'amour. Retour à la politique, parce que à l'heure où noircit la campagne chez Fayard, Guy Bedos colle à l'actualité au fur et à mesure de ses années avec sa revue de presse qui nous a tant marqué, qui nous suit, et ça nous fait du bien d'ailleurs de le revoir.
Les gens me disent qu'ils sont orphelins.
Évidemment, mais c'est pour ça que je vous dis que ça
nous les gens. Il y a aussi des gens qui me détestent aussi, hein, et j'aime bien. J'aime bien déplaire, moi. J'aime presque autant déplaire que
plaire.
Et je rencontre des gens...
Vous choisissez vos ennemis ?
Oui, mais il y a plein de gens qui sont très sympas, très chaleureux, très, j'allais dire, très affectueux, très tendres même. Et bon, voilà, c'est formidable, ça. Quelle chance. Mais il y a aussi ceux qui me regardent violemment, du style, alors, quand est-ce que tu crèves, toi ?
Encore aujourd'hui, vous croisez des gens qui ne vous aiment pas et qui vous
disent... mentalement, je réponds, après toi.
Bruno Cotrès, merci d'être là. Bruno, vous êtes chercheur au CNRS et au Centre de Recherche Politique de Sciences Po, enseignant d'ailleurs aussi à Sciences Po. Vous avez publié en 2014 un livre qui est totalement dans l'actualité maintenant, « Les Européens aiment-ils toujours l'Europe ?» avec le Brexit, puisqu'on est au premier jour de ce deuil. C'était l'expression qui était employée ce matin. Vous pensez que c'est un deuil pour l'Europe ?
Oui, bien sûr, incontestablement, le Royaume-Uni continuera d'être européen à sa manière, mais c'est bien sûr pour l'Union européenne aujourd'hui une triste journée.
C'est Bernard Guetta ce matin qui
applaudit à l'époque.
Ouais, c'est Bernard Guetta ce matin qui disait aujourd'hui est un jour de deuil. Nous parlons maintenant de ce baromètre. Vous venez de publier l'édition 2017 du baromètre de la confiance politique. Les Français sont fâchés avec le système politique ?
Ah oui, clairement, ça apparaît, j'irai à tous les coins de rue de notre enquête. Le rapport des Français aujourd'hui à la politique, il est marqué par un sentiment de désenchantement, une forme de négativité très forte. Les données de notre enquête, elles dressent un portrait qui est assez alarmant, en fait, du rapport des Français à la politique. On est un peu au bord de la rupture, au fond, quand on les interroge sur ce qu'ils pensent, des hommes politiques, de la classe politique en général. Le sentiment qu'ils renvoient, c'est une classe politique qui est perçue comme pas empathique, pas à l'écoute des problèmes des gens, corrompus, qui parlent des problèmes de manière absolument abstraite, qui se soucient que des riches, que des puissants, qui n'inspirent pas beaucoup de respect. Dans les données de notre enquête, eh bien, il y a 41% des gens qui disent qu'il n'y a pas de quoi être fier de notre système démocratique. Le premier sentiment qu'ils éprouvent quand on les interroge, on leur dit, mais quand vous pensez à la politique, qu'est-ce que vous ressentez d'abord? La méfiance, le dégoût. On avait même poussé dans une vague ultérieure de l'enquête de demander, est-ce que vous éprouvez de la haine quand vous pensez aux hommes politiques? Il y avait encore 3 ou 4% de Français qui disaient « Oui, moi j'éprouve de la haine quand je pense aux hommes politiques ». Et d'ailleurs, j'ai publié une analyse de ces données qui reprenait une réplique célèbre du film de Mathieu Kassovitz, La Haine, qui était « Jusqu'ici, tout va bien ». Donc le sentiment qu'on est en train un peu de descendre les étages et que peut-être à un moment donné, on va avoir un crash.
Et l'expression employée tout à l'heure et écrite d'ailleurs dans le livre de Guy Bedos, de ceux qui votent non plus en fonction de leur goût, mais de leur dégoût, vous le retrouvez?
Oui, bien
aussi
sûr, ça apparaît bien dans les données de nos enquêtes, ça apparaît dans les paroles que prononcent les électeurs.
Surtout, vous parliez d'abstention. Moi, j'ai des amis très estimables, que je ne citerai pas, qui s'apprêtent à s'abstenir.
Qui? Ah d'accord, ok. J'essayais.
Je ne les citerai pas. L'abstention, c'est voter Le Pen, d'une certaine manière.
Mais est-ce que les gens sont pas fatigués, justement, de se dire que... Est-ce que les électeurs sont pas aussi fatigués de se dire que s'ils ne votent pas, on va les rendre indirectement responsables de l'élection de Marine Le Pen? Ça pose une vraie question.
Bien sûr, l'abstention, c'est essentiel dans cette élection.
Si tu t'abstiens, tu votes pas Le Pen. On a le droit de s'abstenir, c'est démocratique, moi j'ai le droit de m'abstenir si je veux. Et puis c'est aussi un signe de protestation.
C'est démocratique,
non. Mais il dit que c'est à cause de moi que Marine Le Pen est élue.
Il dit que ceux qui ne votent pas peuvent faire le jeu du Front National, parce que ceux qui votent Front National sont des militants convaincus et eux vont forcément aller voter. Donc elle fera le plein de ses voix, alors que les...
Oui, mais c'est toute la classe politique qui fait le jeu du Front National, c'est pas les gens qui votent pas, en fait.
Ça c'est un vaste débat, oui.
Mais on a un rapport un peu en ambigu par rapport à la politique.
Pour beaucoup de choses, notamment c'est ça, on critique, et on a raison, beaucoup la classe politique, mais moi je critique aussi les électeurs.
Non, mais vous qui citiez Coluche tout à l'heure,
les électeurs ont mauvais goût parfois quand ils élisent Trump par exemple en Amérique, sortant de France, ou quand j'apprends par exemple, je peux les comprendre, que des jeunes gens, très jeunes gens, qui sont en chômage, qui ont l'autre... mes mères, encore une fois, elle leur promet tout, elle ment, elle pourra pas faire ce qu'elle dit qu'elle va faire. Et il y a des tas de gens, notamment des jeunes gens, qui s'apprêtent à voter Madame Le Pen. C'est terrible d'être aussi con, surtout quand on a fait des études.
Voilà, ça c'est fait.
Non, moi je parlais pas des électeurs de Le Pen, je parlais des abstentionnistes. Je pense pas du tout que ça.
Non, mais c'est intéressant parce que les jeunes gens dont vous parlez, Guy Bedos, en réalité, sur cette catégorie d'électeurs, ceux qui vont voter votent Le Pen, les autres souvent s'abstiennent. Oui. Donc c'est
encore
ça
une
aussi.
Fois,
l'abstention, c'est compliqué quand même.
C'est une sorte de vote aussi, de mon point de vue.
Donc, et qui n'est pas reconnu tel quel.
Il y a une phrase que je cite, je crois, dans mon livre, que Françoise Giroud, que j'ai eu la chance de connaître, disait souvent, en politique, il faut savoir choisir entre deux inconvénients. Là, c'est vrai que pour les électeurs, ces temps-ci, c'est pas deux inconvénients, c'est 5-6 inconvénients.
Donc c'est un choix par défaut, comme vous dites, c'est en fonction des dégoûts et pas des goûts. Mais on peut juste rappeler que voter, c'est gratuit, c'est une phrase qui circule beaucoup en ce moment sur Internet, voter c'est gratuit, mais ne pas voter, ça peut coûter cher.
Vous citiez Coluche tout à l'heure, Coluche disait si le vote ça servait à quelque chose, ça fait longtemps qu'on nous l'aurait retiré. Il était abstentionniste aussi, c'était un grand abstentionniste, Coluche.
Et il s'est présenté aussi.
Oui, mais non, mais toi, tu m'énerves, de toute façon. Je t'emmerde aussi, c'est clair. Ce que tu dis, je m'en fous complètement.
Mais moi aussi, je m'en fous ce que vous dites.
Alors, crève.
Après vous.
C'est bien.
Je dois préciser qu'il y a le sourire aussi sur le visage de Guy Bedos. Donc, avant que ce soit finisse en pugilat, est-ce que. l'état de crise dans lequel le monde est, finalement, n'est pas traduit par ce genre de réaction aussi, parce que les personnages politiques sont-ils désemparés face à cette crise, et le côté je ne sais pas quoi faire, voire je me sers d'abord avant de servir les autres, n'aide pas à l'image.
C'est
de
clair
la politique.
Que cette campagne n'aura pas aidé à l'image positive de la politique, c'est certain.
Surtout on a qu'il y a eu pas de campagne.
Les électeurs, bien sûr, les électeurs. Alors, il n'y a pas de campagne, je serais plus nuancé là-dessus d'une certaine manière. Tout le monde dit qu'il faut que la campagne démarre, qu'on parle enfin des problèmes de fond, la confrontation des problèmes.
Honnêtement,
des projets,
vous faites un sondage dans la rue, vous demandez à chaque Français quel est le programme de l'un ou de l'autre.
Mais d'une certaine manière, parler des affaires et parler du fonctionnement de notre classe politique, c'est aussi parler de problèmes importants et de problèmes de fond sur la qualité de la démocratie
en
France.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler.
Voilà, donc il faut en parler.
Je dis juste que c'est le souci, c'est qu'on n'arrive pas à savoir.
Les gens n'ont pas de points.
À part ceux qui ont le nez dans les programmes.
Les gens n'ont pas de points de repère. Et d'ailleurs, les gens n'ont tellement pas de points de repère qu'on développe, nous, des applications pour aider les gens à se repérer. On développe depuis ce matin une application qui s'appelle la boussole présidentielle. Et on répond à des questions et on essaye de vous positionner quel est le candidat qui correspond le mieux à votre profil. Ça s'appelle la boussole présidentielle. Ça s'appelle.
C'est une appli.
Oui, c'est une application, tout à fait.
D'accord.
Donc on aide les gens, d'une certaine manière, à se repérer dans le brouillard dans lequel ils sont.
C'est bien. Mais c'est bien parce que je suis sûr que personne, et moi le premier, hein, j'ai pas le courage d'aller sur Internet et de lire les pages et les pages des programmes
des
uns et des autres.
On a fait ce travail pour vous, on a positionné les candidats les uns par rapport aux autres et on est capable de vous positionner, si vous répondez à cette application, de vous positionner dans le paysage.
Mais est-ce que c'est pas la mort, cette application-là, de l'esprit critique et de l'envie de faire l'effort, de s'intéresser et d'aller regarder
près? C'est une aide, c'est pas la mort de ça. Évidemment, l'idéal serait d'écouter les émissions politiques, de lire les programmes.
Ouais.
Essayer de faire l'effort de lire les bouquins qui ont été publiés par les candidats, c'est pas évident.
C'est pas évident.
Il faut du temps, il faut s'y intéresser.
Et puis c'est peut-être pas très objectif, les bouquins qu'ils ont écrits aussi.
Ça paraît aussi.
Et puis sur notre rapport à la politique aux hommes politiques, il y a un point qui est un peu ambigu et qui m'a beaucoup marqué dans le livre de Guy Bedos. À un moment donné, il regarde les débats de la primaire de la droite. Et il dit, mais c'est consternant, c'est désolant comme débat. Mais au fond, pourquoi je regarde ça? Je devrais en parler à mon psychanalyste.
Oui.
Il dit. Et finalement, on est un peu dans cette situation. C'est-à-dire, on est un peu comme des gens qui regardent, qui passent leur chemin le long d'un accident de la route. Ils savent qu'il faut pas regarder, mais tout le monde va quand même freiner et regarder. Et par rapport au spectacle de la politique, on a cette ambiguïté. On voudrait que les hommes politiques parlent que des problèmes de fond. Et en même temps, le spectacle de la politique, de la confrontation des ambitions et tout, c'est aussi
un
spectacle qu'on aime regarder.
Excusez-moi, mais il y en a beaucoup. Moi, je vois ça justement en homme de spectacle. Il y en a plusieurs, je ne les citerai pas, mais qui ne sont pas le personnage. Comme on dit chez nous, les acteurs, les hommes de théâtre.
Ils ne sont pas le rôle, oui.
Voilà.
Vous dites beaucoup dans votre livre, être un personnage, être le personnage qui peut incarner. J'arrive pas à télécharger la boussole présidentielle.
C'est sur le site de 20 minutes, vous le trouverez.
D'accord, très bien. Non, j'ai essayé, ça marchait pas pendant que vous parliez. C'était pas de l'impolitesse avec mon téléphone, je voulais voir la boussole présidentielle. L'abstention n'est donc pas prise en compte, comme le vote blanc. Est-ce que ça, c'est la dernière étape qu'il faudrait faire, c'est-à-dire valoriser les personnes justement qui ne se reconnaissent pas sur cet échiquier politique?
C'est pas évident, parce que le vote blanc, il y a deux problèmes à la reconnaissance du vote blanc, bien que ça soit une idée qui soit assez populaire. Le vote blanc, il se pourrait qu'un jour, on ait une majorité de personnes qui votent blanc, donc ce jour-là, l'élection ne sert à rien. Et puis surtout, la plupart des partisans du vote blanc accompagnent cette proposition de dire qu'il faut en même temps le vote obligatoire. La contrepartie, c'est le vote obligatoire. Le vote
obligatoire, genre avec une amende de 5 ou 10 euros,
c'est ça le problème. Mais c'est ça le problème,
en Belgique.
Puisque comment pourrait-on imaginer en ce moment, dans le contexte de notre vie politique, avec toutes les affaires, etc., qu'on dirait en plus, si vous n'allez pas voter, vous recevez une contravention. Ça serait pas l'idée la plus populaire.
Pourtant, il y a des PV pour plein de choses maintenant.
Sans aucun doute.
On a même des PV si on n'a pas de gants à moto.
J'imagine que celui-là a beaucoup de mal à passer.
Oui, mais si on comptabilise le vote blanc et qu'on invalide une élection, peut-être que les gens iront voter et ne prendront pas le risque de prendre une amende parce qu'ils considéreront que personne ne correspond à leur vision politique et de l'avenir.
Dans les pays qui ont le vote obligatoire, il y a quand même du vote blanc. Il y a quand même des gens qui s'abstiennent.
Non, mais le vote blanc, c'était une majorité. S'il y a 51% de vote blanc, ça annule l'élection?
Bah oui, il n'y a pas de gagnant de l'élection. Donc c'est les partisans du vote blanc disent non, on revote, on ça. Refait une élection.
Mais donc, il serait utile ce vote
blanc. Encore une fois, je pense que ce qui aurait un sens, c'est que toute la nation, si on veut que ça soit comme une révolution, en tout cas une réponse à ce qui nous déplaît, à ce qui nous déçoit, ça serait alors une abstention généralisée.
Et oui, c'est ce que je dis, c'est ce que dis, 51% au moins de personnes qui disent « on ne veut pas de vous ».
Ah, il y en a
51%. Non, s'il y en a 51%, à ce moment-là, ça voudrait dire quelque chose.
Ah ben oui.
Voilà, il faudrait que ce soit reconnu déjà.
Non, déjà. Non. 51%.
Non, non, est-ce qu'on sait vers quel risque de pourcentage d'abstentionnistes on va pour cette élection?
On estime aujourd'hui, on voit dans toutes nos enquêtes, qu'il y a un écart entre l'intérêt pour l'élection présidentielle, qui est de l'ordre de 80% aujourd'hui, et l'envie de participer, qui, elle, est plutôt autour de 65% aujourd'hui, mais on est quand même à un mois, pratiquement un peu moins d'un mois du premier tour. Il y a plusieurs signes qui semblent indiquer qu'une partie des électeurs sont à la fois perdus, parce qu'ils n'ont pas le candidat qu'ils auraient aimé avoir.
Et 30% ne sait pas encore.
Voilà, donc il y a beaucoup d'incertitudes de vote, et notamment de l'incertitude, elle est plus sur certains électorats que dans d'autres. Les électorats de Marine Le Pen ou de François Fillon sont des électorats qui sont plutôt sûrs de leur choix. Les électorats d'Emmanuel Macron, de Benoît Hamon sont plutôt des électorats en ce moment avec beaucoup d'hésitation.
Et quel est le plus faible taux de participation ?
Le plus faible taux de participation, on l'a enregistré le 21 avril 2002, lors de ce fameux 21 avril 2002, où on est pratiquement à 30% d'abstention. Et ça a été évidemment un des phénomènes marquants. Et au lendemain du 21 avril 2002, il y a des manifs.
Donc l'abstention fait le jeu du Front National.
L'électorat du Front National est un électorat qui est très mobilisé, qui souhaite pousser son candidat, sa candidate, au deuxième tour de cette élection. C'est un électorat qui sait qu'il dispose en 2017 d'une opportunité. Évidemment. Et donc c'est un électorat qui est très mobilisé. Forcément, les autres, s'ils s'abstiennent, ça...
Des gens convaincus, bénéficie. Voilà.
Merci Bruno Cotrès d'être venu à ce micro. Ça donne envie d'aller assister à vos cours à Sciences Po. Guy Bedos est notre invité jusqu'à midi et demi sur Inter. C'est la bande originale avec Leïla Kaddour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Pierre-Emmanuel Barré. Bonjour. Dom Villa.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo, Daniel.
Et notre invité Guy Bedos.
Bravo.
Monsieur Guy Bedos. À l'heure où noircit la campagne, en fait, vous vouliez appeler ce livre Hier, aujourd'hui et demain.
Oui, j'y ai pensé. Oui, mais il paraît que le titre a été pris déjà. Oui. Oui, oui, voilà. Ça disait aussi les choses.
Oui, parce qu'il y a des revues de presse, justement, qui ne sont pas que qu'actuelles, mais sinon toutes celles de, on va dire, de 2016 jusqu'à il y a quelques mois.
Ah oui, là, c'est aujourd'hui. Et demain, peut-être.
Sont présentes aujourd'hui. Mais il en manque. Ça, vous n'avez pas envie déjà de faire une réédition, d'appeler Fayard en disant, écoutez, j'ai deux, trois trucs à rajouter?
Ben non, mais je vais faire un autre livre. Quand Marine Le Pen sera élue, trouverai un livre
grâce
depuis
à moi.
Le Québec que je pourrais faire vendre en France. Mais de résistance, mais depuis le Québec.
Est-ce que là, vous êtes
De Gaulle est bien parti pour Londres. Je peux aller à Montréal.
Oui, mais on peut combattre l'ennemi de l'intérieur aussi. Non?
Hein?
On peut combattre l'ennemi de l'intérieur.
De combattre Marine Le Pen de l'intérieur.
Je vais te dire, la famille Le Pen, j'ai pas confiance. Combattre, pour eux, c'est tuer. Oui, c'est ce qu'ils ont fait en Algérie.
Vous avez... Non, mais je voulais juste qu'il y ait juste clairement du silence après cette phrase. Non, pas du malaise, non. Un temps de réflexion pour chacun. Vous avez été dragué par des candidats à l'élection?
Non.
Actuel?
Non, ils osent pas. Ils ont peur.
Non, enfin, tout à l'heure, vous évoquiez, Mélenchon, qui était, enfin, quelqu'un qui était venu vous chercher aussi avec divers en disant venez à République. C'était le dernier.
Oui, ça, enfin, c'était des copains, ça. C'était... Mais Mélenchon ne m'a pas dragué. Il est trop orgueilleux pour ça.
Non, mais c'est fini de mode, finalement. J'ai l'impression un peu les people, les stars qui se collent aux hommes politiques.
En tout cas, là,
je t'emmerde, je suis pas un people, moi.
Mais non, mais pas vous, Guy, mais vous savez, je crois que les
potes. Les chanteurs, tu veux dire.
Non, mais
il
voilà,
est bien, lui.
De Sarkozy.
Il est bien. Il m'énerve un peu, mais il est bien. Hein.
Tout le monde vous énerve. C'est ça qui est bien.
Il y a que Leïla, quoi.
C'est ça. Non, ça l'énerve aussi, mais ailleurs.
06, 24.
Voilà, on aurait pu avoir un moment élégant et pas du tout.
À l'heure où noircit la campagne, c'est publié chez Fayard. Et voici l'élégance faite homme Daniel Morin.
Qu'est-ce qui se passe?
Ah, mais je déconne.
Bravo Daniel.
Merci. Ah mon Dieu.
C'est pas fini.
Quelle joie. Quelle joie mêlée d'émotions que de recevoir Guy Bedos. Guy Bedos qui est à l'humour de gauche que Nagui est à la tyrannie orientale, une valeur sûre. À France Inter, temple gauchiste de la liberté hertzienne, tout le monde est dans ses petits souliers avec l'arrivée de Guy Bedos, icône bolchévique de la blague aussi fuselée qu'assassine. Guy Bedos sur France Inter, c'est la même émotion que Florian Philippot sur Radio Courtoisie ou Cyril Hanouna sur France Culture. On en tremble de joie ou d'angoisse. Quoi qu'il en soit, cette visite enchanteresse pour nous n'est pas vue d'un très très bon œil par nos collègues de chez Radio Facho.
Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs patriotes. Aujourd'hui, 29 mars, c'est la journée mondiale de l'allaitement. Une occasion pour saluer toutes les mères au foyer qui, avec tendresse, s'occupent de leur progéniture chérie en les élevant dans un esprit fier et chrétien pendant que leur mari travaille à l'usine ou au champ afin de subvenir aux besoins de la très sainte famille, famille si chère au maréchal Pétain, qui nous manque tant. D'ailleurs, d'ici quelques minutes, nous recevrons Marie-Françoise, élue patriote frontiste qui, à 67 ans, dans un incroyable élan de chrétienté, se tire encore le lait pour le distribuer gratis aux femmes de sa commune qui, pour leur plus grand malheur, ont la mamelle sèche. Quand on pense qu'à la même heure, sur le service public de France Inter, la chaîne rouge, tout acquise à la cause post-communiste, l'invité du jour est Monsieur Guy Bedos. Monsieur Guy Bedos, fantaisiste pamphlétaire léniniste qui depuis 50 ans salit la France de ses saillies bobo-gauchistes qui n'amusent que les traîtres à la nation et les rastaquaires qui la siègent. Tout ça dans une émission sous la houlette d'un animateur basané analphabète égyptien. Un être gluant, tellement fainéant qu'il n'a déclaré l'état civil que son prénom. Quand on pense que c'est avec l'argent public qu'on permet une telle mascarade de divertissement qui en réalité ne sert de couverture à la propagande bolchévique fomentée par des animateurs drogués comme M. Cohen, alcoolique comme M. Demorand ou encore possédé par le démon du vice comme le satyre protéiforme arménien rongé par la syphilis, André Manoukian. Un groupuscule de créatures sataniques qui feront moins leur malin dans un mois et demi quand Dame Marine sera présidente de la France. Oui, on le sait ici sur Radio Facho, on le sait, on le sent, la victoire est proche, toute proche. Oui, dans notre bel hexagone, le vent de la révolte blanche souffle dans les cheveux blonds d'un peuple bafoué, humilié, piétiné. Oui, je l'entends, je l'entends. Je l'entends déjà, le doux son des haut-parleurs de nos aéroports lancer les derniers appels des charters de la démigration, les vols du grand retour au bercail de nos populations sans su à destination des contrées sarrasines, congoïdes, niakoué ou manouches. Une fois l'ordre rétabli, nous verrons une France libre et blanche promener fièrement un crucifix en bandoulière et un jambon beurre à la main, du bon jambon de cochon, animal martyr de ces dernières années, dont l'image fut salie par des hordes sanguinaires et talibanes dégorgeurs de moutons. Une France dont le blason scintillera à nouveau à tous les firmaments, oui. Tous, notamment au firmament sportif, on ne verra plus ces salopards espagnols venir nous martyriser chez nous, sur nos pelouses. Quelle honte être invité au Stade de France et de même pas avoir la politesse de laisser gagner le pays hôte. Aucun savoir-vivre. Ah, ça va les changer quand Robert Ménard sera sélectionneur officiel de notre équipe nationale. Éric Zemmour, le préparateur physique. Fini la rigolade pour ce peuple hirsute et velu, dopé à la sangria et bouffi de chorizo. Une fois l'ordre rétabli, là... Là, là, on se sentira tout penaud, Monsieur Bedos. Ce bon Monsieur Bedos n'aura plus qu'à aller demander pardon à Madame Morano pour qu'elle l'accueille et lui transmette de vraies valeurs patriotes teintées de blondeur au son de l'accordéon pour qu'enfin il chasse de son esprit pollué 50 ans de radicalisation stalinienne, pour qu'il se débarrasse de ses penchants aussi nauséabonds que multiculturels, voire pluriraciaux, et ce afin que nous puissions enfin l'accueillir et qu'il forme le duo d'humoristes que nous attendons tant, nous les fachos, le tandem Guy Bedos-Jean Roucas. Vive la France, vive le maréchal. Une émission en partenariat avec le journal Valeurs Actuelles et les pastilles Vichy. Oui, je sais, ça fait peur, mais attention les amis, je vous rappelle que la menace tape à notre porte. À demain.
Merci, bravo. Bravo.
La bande originale.
Bravo Daniel.
C'est France Inter.
Bravo.
Ah ouais. Ah ouais, c'est bien. Bravo.
Ben. Vous parliez de Morano, j'avais aggravé mon cas. En disant, je sais plus où, dans une émission de télévision,
chez Ruquier, non,
dire de Morano qu'elle est con, c'est pas de la diffamation, c'est de l'information.
Voilà, ça c'est fait.
Salope.
Voici, je précise que ça c'est la voix de Tom Villa pour le procès. Non, mais il faudrait que chacun ait son procès.
Ah oui, d'accord, okay, voilà. Très bien.
Ah bah oui.
Mais moi j'imite Tagui.
C'est
coup,
trop.
Ça...
Non, 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 ça compte.
Partage des frais.
Voici le brouillon de culture de Leïla Kadro-Boudadi pour.
Guy Bedos, je vous sors de la promo un petit bol d'air, votre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un premier son pour vous, écoutez.
Il y a eu un journal qui est attitré La France de Guy Lux. Ben, j'ai l'impression de ne pas appartenir à cette France-là.
Mais c'est pourtant la France de la bonne humeur, la mienne.
Oui. Ben, la mienne est pas mal non plus, tout pareil.
Alors donc, nous n'avons pas la même bonne humeur.
Non.
Alors.
Oh, écoutez, ça peut s'arranger. Vous avez vu aujourd'hui?
Non, vraiment?
Hein?
Pas aujourd'hui.
Non.
Ah, plus tard, écoute,
vous pouvez vous serrer la main, vous pouvez faire
quelque chose. Ah, mais ça vous a été fait.
Ah bon?
J'ai serré tellement de mains. J'ai serré la vôtre, quelquefois.
Ouais, ouais, ouais.
C'est vous, Guy, en 1974, sur le plateau d'une émission de Philippe Bouvard, où vous expliquiez, face à Guy Lux, les yeux dans les yeux, pourquoi vous ne veniez pas dans ces émissions. Des émissions qui, pourtant, à l'époque, faisaient un vrai carton d'audience. C'était très, très courageux de votre part.
Ça ne m'a jamais influencé, ça.
Ouais.
Le succès de ceux que je n'aime pas ne font que, d'une certaine manière, déployer, je dirais, l'indifférence vis-à-vis d'un certain public.
Qu'est-ce que vous n'aimiez pas chez Guy Lux, dans ses émissions, pour ne pas y aller?
C'est loin, tout ça.
Ouais.
Je lui pardonne. Il n'est pas mort, non?
Si, malheureusement.
Si. Il n'est plus de ce monde, alors on ne médite pas sur les...
Non, non. Non, je n'irai pas tout de suite au cimetière pour me recueillir, mais je vais pas m'acharner sur Guy Lux. Non, j'aime pas parler
de ça. C'était pas tant ça de s'acharner que d'expliquer pourquoi vous vouliez pas y aller, en fait. C'était juste ça. C'était pas...
Parce que je la trouvais vulgaire, ordinaire, que je n'aimais pas les autres invités, pour la plupart. Voilà, c'était pas pour moi.
Et quelle,
mais à quelle émission, pardon? Parce que je vois mal Guy Bedos dans un Interville ou dans un Palmarès de la Chanson.
Non, il faisait une émission où il recevait des artistes.
Ouais, il y avait des entretiens.
Avec des interviews.
Ouais.
Oui.
D'accord.
Des entretiens.
Mais enfin, en termes de beauté humaine, on peut pas dire que Philippe Bouvard ait marqué beaucoup de points non plus. Dans son comportement.
Je faisais partie de ceux que...
Mais Guy Philippe Bouvard n'est pas mort.
Pas avoir.
Non, mais c'est pour ça que je me permets de dire qu'il a aucune beauté humaine. Ouais, c'est tout.
Et je me demandais justement, Guy Bedos, quel genre de téléspectateur vous étiez aujourd'hui? Est-ce que vous regardez la télévision? Est-ce que, par exemple, avant d'être invité dans une émission de télévision, vous demandez à connaître la liste des autres invités? C'est une pratique de plus en plus courante que de ne pas dire aux invités qui seront présents sur le plateau en même temps qu'eux.
Oui.
Et je me demande si ça, c'est des conditions que vous pourriez accepter aujourd'hui.
Ben là, très franchement, par exemple, si je suis ici, c'est que j'ai de la vraie sympathie pour Nagui et que,
merci,
d'une certaine manière, j'imagine qu'il va pas me mettre en présence de Robert Ménard.
Non. Ou alors on part tous les deux.
Oui, voilà.
On est trois.
Donc, oui.
Est-ce que vous iriez sur le plateau de Thierry Ardisson, par exemple? Parce que sur l'émission de Thierry Ardisson, il y a beaucoup d'invités et on se retrouve face à des gens.
Vous parlez d'Ardisson?
Oui.
Ah ben j'étais un petit peu en froid avec lui à une époque.
D'accord,
oui, mais vous êtes rabiboché.
Hein?
Vous êtes à nouveau, peut-être pas ami, mais rabiboché en tout cas.
Oui, oui, un peu. Oui. Mais je pense que ma vie, j'ai Ardisson.
Ce que tu veux savoir, Leïla, c'est est-ce que Guy Bedos aimerait rentrer dans un débat ou affronter quelqu'un qui n'apprécie pas?
Justement, plutôt quel regard vous portez sur la télé aujourd'hui? Est-ce que vous...
Alors, je vais vous dire... C'est peut-être pas bien, mais je ne regarde que les chaînes d'information continue.
D'accord.
Je regarde presque pas les chaînes publiques.
Et pourquoi donc?
Normales, si j'ose dire. Ça m'arrive aussi, mais je regarde BFM, je regarde iTélé, LCI,
France,
etc.
Info.
Je zappe de l'une à l'autre, voilà.
Mais c'est sur France Info aussi, il y a une très bonne chaîne d'information.
France Info, oui,
146.
Mais sur je te vois, toi. Sur la 2.
Oui, je suis sur la 2.
N'oubliez pas les paroles.
Voilà, c'est ça.
Oui, c'est très bien.
Les chaînes d'info,
toutes les émissions de la 2, c'est Nagui.
Les chaînes d'info, Guy, vous les regardez combien de temps? Parce que c'est redondant au bout de 20 minutes.
C'est vrai. Eh ben, je zappe.
D'accord.
Il m'arrive de se fermer là, ma télé. Et de me contenter de la vie.
Et quand vous regardez la télé
avec votre femme, par exemple.
Et quand vous regardez la télé, les chaînes d'information, vous prenez des notes?
Non.
Vous écrivez?
Non. Là, j'ai écrit ce livre, mais j'ai jamais pris de notes par rapport aux infos.
Non. Parce que votre livre, c'est plus une revue de presse, mais on a le sentiment que c'est de la presse écrite. Qu'une revue télé.
Je lis aussi, j'achète les journaux tous les jours. Je parcours plus que je ne lis Libération, Le Parisien, Le Monde, que j'aime bien. Voilà, j'ai.
Minute, l'heure actuelle.
Dans la presse.
et en ne regardant pas la télé, justement, là, vous êtes en pleine promotion de votre livre, à l'heure où noircit la campagne. Est-ce qu'il y a des émissions où vous ne souhaitez, par exemple, pas du tout aller puisque...
Ah oui.
J'espère.
Ah oui. Oui, je ne vais pas vous dire.
Non, mais sans les citer, pourquoi vous n'iriez pas, justement? Sans citer ces émissions.
Parce
je ne demande pas une liste, hein, moi.
Parce que, d'une certaine manière, c'est pas parce que je suis pas un marchand de livres, moi. J'écris pas pour gagner des ronds. Si le livre se vend bien, je serais très fier et très heureux. Mais je ne pense pas Donc,
non, il y a des endroits où vous voulez pas aller.
Que qui j'ai envie de fréquenter.
Très bien. On poursuit avec un autre son pour
qui justement. Non.
Qui vous.
Je sais plus.
Bah voilà, c'est toujours un peu délicat. Des gens dont
vous aimeriez aller où.
Bah, je vais aller sûrement chez mon pote Drucker. Je raffole pas des humoristes entre guillemets qu'il reçoit tous les dimanches.
Bah, il est lui-même humoriste maintenant.
Comment ?
Il est lui-même humoriste.
Il est acteur. J'ai vu son spectacle qu'il a fait à partir de son livre.
Il y avait François Hollande aussi dans la salle.
Oui. Mais, ah oui, c'est vrai. Je finis par plus savoir ce que j'ai écrit dans mon livre.
Bah, si vous l'avez écrit.
Je me relis pas tout le temps. Hein.
On poursuit avec un autre son d'un humoriste, justement, et c'est juste pour vous.
Je peux vous dire que celui-là, c'est mon copain. Il faut pas l'abîmer.
Oui, oui.
Parce qu'il a fait pour moi quelque chose qui est assez rare. J'ai horreur du copinage.
Et surtout, qu'est-ce qu'il a fait?
Bah, il m'a donné tout son temps, tout son talent, toute son intelligence pour m'aider. Pour m'aider à faire ce one-man show que j'aurais jamais fait, j'aurais jamais osé. Je trouvais complètement outrecuidant d'aller pérorer pendant une heure et demie, même plus, sur une scène. Ouais. Et c'est lui qui m'a dit, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a rigolé. Et que quand Monsieur Bedos rigole de quelqu'un sur une scène, on peut penser, sans être outrageusement prétentieux, qu'on est peut-être un petit peu rigolo quelque part.
C'est Pierre Desproges en 84 qui vous rend un très bel hommage. Il explique que c'est grâce à vous qu'il a osé mettre un pied sur scène.
Oui, en effet, j'ai insisté. Parce que, en général, quand j'ai tendance à être d'accord avec moi.
C'est bien.
Et donc, j'adorais Pierre.
Qu'est-ce que vous lui trouviez à l'époque, Pierre Desproges? Parce que vous étiez un des premiers à voir en lui quelque chose de...
C'était un type délicieux. On n'était pas tout à fait du même bord politique. Je crois qu'il penchait un tout petit peu à droite. Mais je m'en fous, c'était pas un facho pour autant. Et d'autre part, il avait un talent fou, c'est tout. Moi, j'étais séduit par Coluche aussi. J'étais pas d'accord avec tout. Je suis pas sûr qu'on avait la même marque de cigarette, par exemple.
Est-ce que vous avez poussé d'autres personnes comme ça à monter sur scène?
Oui.
Avec succès ou...
Peut-être... j'ai même... Sous la proposition de Martine Aubry, je suis allé monter un spectacle que j'ai écrit pour des jeunes maghrébins de la région de Lyon. J'ai oublié le titre, mais bref.
De Lyon ou de Lille?
Comment?
De Lyon ou de Lille?
Si c'est Martine Aubry qui a poussé...
C'était pas à Lille?
Ah, de Lille, peut-être. Oui, oui.
Peut-être.
Ah,
peut-être.
Oui.
Il vrai. Est nerveux. Hein,
depuis que j'ai vu Madame Le Pen en meeting à Lille, j'avais envie de téléphoner à Martine Aubry pour lui demander pourquoi elle l'avait laissé. Je comprends pas qu'elle puisse aller dans la ville de Martine Aubry.
En fait, vous êtes contre la dédiabolisation du Front National, puisqu'on dit qu'il faut les laisser s'exprimer, il faut que les.
Mais ils sont trop là, hein. Madame Le Pen est partout.
Oui,
elle est déjà là.
C'est une question. C'est juste
on
une
la
question.
Reçoit trop. Et on diffuse trop ces meetings. Parce qu'encore une fois, elle a du talent, d'autre part. Elle a le talent d'une menteuse. Je vous dis, moi, quand je l'écoute, je me dis, mais il y a des tas de gens qui la prennent pour une femme de gauche. Elle répète le peuple sans arrêt. C'est du ratiocinage et c'est extrêmement déplaisant.
Et je finis par un cadeau pour vous, Guy Bedos, un livre
0624.
Un livre rouge, la tranche est rouge aussi.
Bon, c'est une couleur que je supporte.
Ah bah alors ça tombe bien, c'est dans le cadre de l'exposition du centenaire de la disparition de Rodin, le sculpteur, qui est donné en ce moment au Grand Palais.
Oui.
D'ailleurs, Rodin sera incarné sur grand écran par Vincent Lindon et Camille Claudel.
Oui.
Ce sera Isia Higelin derrière la caméra de Jacques Doyon.
Que nous recevrons
au mois de mai.
Ouais.
Voilà.
C'est ma bande ça, parce que Higelin, j'ai débuté plus ou moins au théâtre avec lui dans une pièce à l'époque. Et on est toujours resté très très proches.
Et l'exposition du Grand Palais est assez fascinante puisqu'on revoit tout l'itinéraire de Rodin et aussi l'héritage qu'il a laissé à d'autres sculpteurs. Et on a découvert un jour dans un carton marqué de sa main des dessins, un peu plus de 120 dessins et aquarelles assez érotiques, assez crus, il faut le dire. Ah, oui. Il a marqué sur ce carton de sa main.
Je suis au bord de l'érection là.
Ouais, voilà.
Elle n'est pas abîmée. met la table.
Voilà, 06, et il a marqué de sa main ce carton en indiquant musée secret. C'est un peu l'enfer de Rodin dans lequel vous allez pouvoir pénétrer. C'est un très beau bouquin aux éditions. Maintenant, je le choisis. Il n'y a pas que les hommes qui ont le droit de faire des allusions à demi-mot à la sexualité. Et c'est aux éditions Albin Michel, le musée secret, des dessins érotiques.
Merci. Je suis gâté.
Et c'est à la manière d'un Courbet qui s'était intéressé à l'origine du monde.
Gustave.
Et bien là, voilà, Rodin, lui aussi, non pas par provocation ou par simple côté un peu libidineux, il veut juste voir de plus près la nature humaine et y aller puiser le souffle vital, le flux vital qui va ensuite lui donner de l'inspiration pour ses sculptures.
Merci Leïla.
Merci Leïla.
Ce cadeau étant pour Guy Bedos, je rappelle que Guy publie chez Fayard À l'heure où noircit la campagne, que je vous recommande vivement pour passer non seulement un bon moment, mais ça donne aussi à réfléchir. Mm-hmm. C'est ça aussi la force de l'humour de Guy Bedos. Voici Daniel Morin pour des excuses, mon Daniel, mais des excuses de quel ordre?
De bonnes excuses, évidemment. Désolé déjà pour les fans de Tom Villa qui, comme Nagui, ont été surpris par le travail fourni et la qualité de ce papier. C'est vrai, j'ai moi-même été choqué. On aurait cru une de mes chroniques au niveau qualité. Désolé pour tous les joyeux qui nous écoutent et qui ont été quelque peu calmés par notre émission spéciale Vivement la mort qu'on se casse de ce monde de merde. Ne vous inquiétez pas, ça ira mieux demain.
Ça me plaît bien ça.
Pas. Désolé pour les électeurs de Marine Le Pen qui normalement écoutaient RMC, qui se sont perdus chez nous et qui ont appris avec effarement que Pierre-Emmanuel Barré allait les aider, allait aider leur candidate à être élu. Bon, je vous préviens les gars, au début Pierre-Emmanuel il sent fort, mais c'est pas un mauvais gars. Et puis merde, hein, vous le méritez bien.
Merci Daniel. Merci mille fois d'être venu, Guy Bedos.
Oui, merci.
Si tôt le matin à 11h pour cette émission.
Oui, pour moi c'est tôt.
On a changé vos habitudes, je suis désolé.
Merci à tous.
Non, mais c'est un plaisir.
Reçu de façon si fraternelle.
À l'heure où noircit la campagne chez Fayard, et donc on va vous accompagner au bureau de Laurence Bloch pour signer votre contrat, pour venir
faire
des revues de presse toutes les semaines ici.
Ouais, j'y avais pas pensé, mais pourquoi pas.
Mais non, mais la radio.
Ben oui. Oui, c'est pas mal. Oui, ma femme m'écouterait.
Parce que d'habitude, elle vous écoute pas.
Non, je blague.
Alors, on noircit la campagne chez Fayard. Merci, on se retrouve demain dans cette bande originale avec Catherine Yégel et Bruno Pulzulu qui seront là sur Votre Maman, qui est le nom de cette pièce qu'ils interpréteront très bientôt au théâtre. Voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Nagui, bonjour la bande.
Salut. Comment ça va Philippe?
Ça va très bien.
Depuis
salut.
Qu'on s'est croisé à la cantine.
Mais oui mon lapin.
Qu'est-ce
c'est
que
vrai.
T'as mangé?
Rien du tout, parce que c'était immangeable.
Et vous avez pas ce midi non plus.
Et vous avez un nouveau chroniqueur alors?
Oui, Guy Bedos, ouais. ça y est.
Bien. Guy qui?
Bedos.
Je connais pas. C'est un jeune nouveau?
Oui, c'est
des prometteurs.
Oui, ouais. C'est très jeune.
Et la version de mon
je vous emmerde aussi.
moi aussi.
Non, c'est un signe d'affection.
En tout cas, si la campagne noircit, il y a une solution, il faut la battre.
Et oui.
Ah ouais.
Et c'est ce qu'on va faire.
Absolument.
Battre la campagne.
Battre la campagne.
Salut les amis.
Salut.
Merci Philippe Bertrand.